Nous allons aborder aujourd'hui une lettre dont on dit souvent, à juste titre, que c'est la lettre la plus célèbre de l'histoire de la littérature italienne, qui est une lettre que Machiavel envoie à son ami Francesco Vettori le 10 décembre 1513. Et Francesco Vettori est alors l'ambassadeur de Florence à Rome, et Machiavel n'est plus aux affaires, puisque les Médicis sont revenus au pouvoir depuis près d'un an. Dans cette lettre, Machiavel annonce à Francesco Vettori qu'il vient de rédiger un texte, il le nomme un opuscule, un opuscolo, sur les principats, un opuscolo de principatibus. Et il précise dans cette lettre que si on le lisait, cet opuscule, eh bien, on verrait que pendant les 15 ans où il a fait son apprentissage dans le métier de l'État, il n'a ni dormi ni joué. Au moment donc où il écrit cette lettre, hein, il a donc quitté la boutique dans laquelle il travaillait, c'est-à-dire la seconde chancellerie de la République florentine, dans laquelle il a travaillé depuis le 15 juin 1498, date où il a été élu précisément secrétaire de la seconde chancellerie, et il y est resté jusqu'à début novembre 1512, lorsque les Médicis, de retour à Florence, d'où ils avaient été chassés par une émotion populaire en novembre 1494, donc, à leur retour, les Médicis le privent de son emploi à la chancellerie avant de l'assigner en résidence surveillée hors de Florence. Quelques accidents, hein, comme il l'a dit lui-même, suivent cette mise à l'écart. Machiavel, en effet, a été arrêté le 12 février 1513, après la découverte d'une conjuration anti-médicéenne. Il a été condamné à la prison à vie et il n'a dû sa libération qu'à la liesse générale qui a suivi l'élection de Giovanni de' Medici au pontificat, donc un des membres de la famille Médicis, cardinal jusque-là, et qui est élu au pontificat le 11 mars 1513 et qui prend le nom de Leone Decimo, Léon X. Donc, dans cette lettre du 10 décembre 1513 à Vettori, Machiavel entend demander conseil à son ami. Et le conseil porte sur la façon de rentrer en grâce auprès des Médicis. C'est d'ailleurs donc une des raisons de l'écriture du prince. Hein. Au-delà de cette fonction bien réelle, hein, de cette fonction pragmatique. J'ai écrit un texte, est-ce que je dois l'envoyer aux Médicis pour les convaincre de me prendre à leur service, puisque jusqu'à maintenant, il a été au service de la République anti-médicéenne. Mais au-delà de cette fonction, eh bien, la lettre met en évidence deux éléments importants de la méthode de travail de Machiavel, dont on aura l'occasion de reparler en étudiant plus en détail les textes mêmes et en particulier le prince. Et ces deux aspects importants de cette méthode de travail sont d'ailleurs résumés par une formule célèbre de la lettre de dédicace du prince. Hein, ce qu'il a appris, ce qu'il sait, eh bien, il l'a acquis par une longue expérience des choses modernes et une lecture continuelle des choses antiques. Una lunga esperienza delle cose moderne e una continua lezione delle antiche. Donc, premier pilier, la longue expérience des choses modernes. Ici, vous aurez sans doute déjà entendu, hein, dans la citation tout début de ce cours, qu'il prend la forme d'un clin d'œil Ce clin d'œil, c'est l'allusion à 15 années, les 15 années où il n'a ni dormi ni joué, et où il était, donc j'ai dit dans la traduction tout à l'heure, dans le métier de l'État, hein, au moment où il a fait son apprentissage dans le métier de l'État. Mais le texte italien dit précisément la chose suivante. Si vedrebbe che 15 anni che io sono stato a studio all'arte dello Stato non li ho né dormiti né giocati. Sono stato a studio all'arte dello Stato, ça ne veut pas dire, malgré la terminologie qui pourrait le faire penser, arte dello Stato, qu'il a étudié l'art de l'État. Hein? Mais ça fait référence à un métier, ou autre sens très fréquent du terme arte dans la tradition florentine, à une corporation. Hein? D'ailleurs, Machiavel à d'autres reprises, dans sa correspondance en particulier, et dans des lettres adressées à ce même Francesco Vettori, hein, que lui-même avait peu d'intérêt pour les autres arti, hein, qu'il ne connaissait rien à l'art de la seta, au métier, à la corporation de la soie, ni à l'arte della lana, au métier, à la corporation de la laine, c'est-à-dire ces corporations, ces métiers qui organisent à Florence, hein, le travail de la soie et de la laine. Et ce désintérêt, il l'évoque plaisamment, donc dans une autre lettre à Vettori du 9 avril 1513, en disant « La fortune a fait que, ne sachant raisonner ni de l'art de la seta, ni de l'art de la lana, ni des gains, ni des pertes, il me faut bien raisonner de l'État, et je dois faire le vœu de me taire, ou bien discuter de cela. » D'ailleurs, Vettori comprend parfaitement qu'il ne s'agit pas des fondements théoriques de l'art de l'État, mais d'un jeu sur les corporations, sur les métiers, hein, puisque dans une lettre ultérieure, un an plus tard, hein, il utilisera lui-même ce clin d'œil, hein, en disant, en écrivant à son ami, « Même si vous avez quitté la boutique voilà 2 ans, je ne crois pas que vous ayez oublié le métier, dimenticato l'arte. » Donc, au-delà de ce qui pourrait être simplement un clin d'œil dans une correspondance entre amis, eh bien, il y a une indication importante. Cette indication, c'est l'idée que s'occuper des cose dello Stato, des choses de l'État, est un métier, celui dans lequel s'est forgée précisément la lunga esperienza delle cose moderne, la longue expérience des choses modernes revendiquée dans la dédicace du prince, et dont il précise d'ailleurs dans cette dédicace qu'il l'a menée au prix de tant de désagréments et de périls. Car derrière l'écriture des textes machiavéliens, il y a un moment historique bien particulier. Le moment des guerres d'Italie et de leurs effets sur Florence. L'état de guerre, depuis l'arrivée à l'automne 1494 des troupes françaises de Charles VIII en Italie, est une donnée permanente que résume une formule qu'emploie Machiavel dans une lettre envoyée à Francesco Vettori, hein, « Toujours, je le cite, d'aussi loin que je me souvienne, ou bien on a fait la guerre, ou bien on en a parlé. On est dans une période de profonde variation des choses, dans une période de profonde transformation. Rien n'est plus comme avant. C'est ce que les contemporains Machiavel comme Guicciardini ou d'autres Florentins appellent la mutazione delle cose, hein, la variation, le bouleversement des choses. C'est une qualità dei tempi, une qualité des temps, nous dirions une conjoncture, qui explique bien des aspects de l'œuvre de Machiavel et d'autres Florentins importants comme Francesco Guicciardini ou Francesco Vettori lui-même. Alors, on avait dit que ça, c'était une réflexion sur le premier pilier, le pilier « La lunga esperienza delle cose moderne », la longue expérience des choses modernes. Il y a un autre aspect qui transparaît dès cette lettre, évidemment, on le reprendra en détail en évoquant les textes lui-même, c'est le rapport aux anciens, le rapport aux cose antiche, à la continuelle lecture, la continua lezione des textes des anciens. Et là, le passage de la lettre sur ce point est indicatif. Alors, dans cette lettre, Machiavel ne commence pas par parler des anciens ou de l'expérience des choses modernes. Il commence par évoquer les activités quotidiennes de sa vie à la campagne, donc ses jours un peu forcés à la campagne. Et il raconte avec beaucoup de capacités littéraires, beaucoup de détails amusants, etc. Une journée dans la campagne, une journée dans les champs. Le matin, il va à la chasse aux petits oiseaux, il prépare les gluaux et les cages. Ensuite, il va discuter avec les bûcherons qui coupent son bois. Il va jouer aux cartes avec l'aubergiste, le boucher, le meunier, les chauffourniers du village. Chaque point de cette partie, raconte-t-il, où on joue pour un sou est âprement disputé, si bien que, dit-il, on nous entend crier jusqu'à Saint-Cachan, des kilomètres de là. Après donc cette journée-là, Machiavel rentre chez lui, et d'une certaine façon, il explicite qu'il se transforme, qu'il change de personnage. Il était un campagnard presque comme tous les autres. Il quitte ses habits tout crottés par ses activités campagnardes, et il revêt des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Donc cette transformation, comme ça, sous nos yeux, cette mise en scène de ce campagnard qui va discuter, jouer aux cartes en hurlant, etc., redevient un lettré qui s'adresse à d'autres lettrés et les interroge. Je vous lis ce passage. Le soir venu, je retourne chez moi et j'entre dans mon cabinet. Sur le seuil, j'enlève mes vêtements quotidiens, couverts de boue et tout crottés. Et je revêt des habits dignes de la cour d'un roi ou d'un pape. Et vêtu comme il se doit, j'entre dans les antiques cours des anciens, où, reçu par eux avec amour, je me repais de ce mets qui, solum, est le mien, et pour lequel je suis né. Et là, je n'ai pas honte de parler avec eux et de leur demander les raisons de leurs actes. Et eux, par humanité, ils me répondent. Et pendant 4 heures de temps, je ne ressens aucun ennui, j'oublie tout tracas, je ne crains pas la pauvreté, la mort ne m'effraie pas, je me transporte tout entier en eux. Et comme Dante dit qu'il n'est pas de science sans que l'on retienne ce que l'on a compris, j'ai pour ma part noté dans leur conversation ce dont j'ai fait mon miel, et j'ai composé un opuscule De Principatibus où je me plonge autant que je le peux dans les cogitations à ce sujet, en disputant de ce qu'est un principat, de quelles espèces ils sont, comment ils s'acquièrent, comment ils se maintiennent, pourquoi ils se perdent. Et si jamais l'un de mes caprices vous plut, celui-ci ne devrait pas vous déplaire. Et un prince, surtout un prince nouveau, devrait l'apprécier. C'est pourquoi je l'adresse à la magnificence de Julien de Médicis. Philippe Okazavec a la vue, il pourra vous informer pour partie, tant de la chose elle-même que des discussions que j'ai eues avec lui, même si je continue toujours à l'engraisser et à le polir. Cette mise en scène, cette théâtralité, cette brusque transformation du joueur de cartes brailleur en lettré, attentif aux paroles des anciens, décrivent un acte intellectuel qu'on peut situer dans la longue tradition humaniste de l'amour des textes de l'Antiquité. Cet amour et ce rapport aux textes qui sont capables de rendre les hommes meilleurs qu'ils ne sont. Mais il faut bien noter le sens de la démarche de Machiavel. Il s'agit pour lui d'interroger les hommes de l'Antiquité afin de leur demander les raisons de leurs actes. Et cette interrogation a pour fonction de tirer des leçons pour le présent. Cette position relève à la fois d'une revendication de la tradition humaniste et d'une polémique vis-à-vis de la façon dont cette tradition a imité les anciens. Cette polémique, Machiavel la développe dans le prologue du premier livre de ses discours sur la première décade de Tite-Live. Elle porte sur la façon dont, selon lui, la tradition humaniste a recours à l'exemple des anciens. Selon lui, les humanistes suivent l'exemple des anciens, et ils ont raison de suivre cet exemple, en ce qui concerne les arts, la médecine et le droit, mais se refusent à tort à le faire en matière politique et militaire. Je le cite. Néanmoins, pour ordonner les républiques, maintenir les États, gouverner les royaumes, ordonner la milice et mener la guerre, juger les sujets, accroître l'empire, on ne trouve ni prince ni république qui ait recours aux exemples des anciens. Cette erreur découle selon lui d'une façon erronée de lire l'histoire, et c'est précisément cet objectif qu'il se fixe comme programme en écrivant ses discours. Il utilise l'expression « il faut savoir goûter la saveur des histoires et de l'histoire ». Et notons bien que dans le terme « les discours », « i discorsi », il faut entendre, au-delà de l'idée d'un texte qui se déroule, il faut entendre le sens de « discorrere », qui signifie « examiner ». Il s'agit bien d'un examen, une sorte de glose. Le but de l'écriture devient dès lors de faire revivre l'antique vertu des anciens, de lire leurs textes, de se saisir de leur expérience, de façon à pouvoir comprendre la situation du moment, de façon à pouvoir comprendre les enjeux qui sont amenés aux acteurs politiques par la qualité des tempi, la qualité des temps, la conjoncture, de façon à comprendre les périls que courent l'Italie et en particulier la patrie de Machiavel, Florence. Et au-delà de ce processus de compréhension par cet aller-retour entre expérience des choses modernes, lecture des choses anciennes, l'hypothèse est que l'on peut faire face à la conjoncture qui naît des guerres d'Italie et qu'on peut agir. Ce point, c'est le point qui sera développé à la fois dans Le Prince et encore plus précisément dans L'Art de la guerre. sur les mesures politico-militaires que devraient prendre les princes et les républiques italiennes. Passons maintenant à un autre texte qui permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse, qui est le prologue du deuxième livre des discours sur la première décade de Tite-Live. Je lis ce texte, ou plutôt des extraits de ce texte. Celui qui naît en Italie et en Grèce et n'est pas devenu ultramontain en Italie ou turc en Grèce a raison de blâmer son temps et de louer les autres. Car dans les temps anciens, il y a de nombreuses choses qui les rendent admirables et dans les temps présents, il n'y a rien qui les rachète d'une misère, d'une infamie et d'une honte extrême. Entachés comme ils le sont de toutes sortes de laideurs, on n'y respecte ni la religion, ni les lois, ni l'armée. Et ces vices sont d'autant plus détestables qu'ils se trouvent surtout chez ceux qui siègent dans les tribunaux, commandent à tous et veulent être vénérés. Je ne sais donc pas si je mériterais d'être compté parmi ceux qui se trompent, en louant trop dans mes discours les temps des anciens Romains et en blâmant les nôtres. Et vraiment, si la vertu qui régnait alors et le vice qui règne maintenant n'étaient pas plus clairs que le soleil, je serais plus prudent dans mes propos, craignant de tomber dans cette erreur dont j'accuse certains. Mais la chose étant si manifeste que chacun la voit, j'aurais la hardiesse de dire ouvertement ce que je pense de ces temps-là et de ces temps-ci, pour que les esprits des jeunes qui liront mes écrits puissent fuir les uns et se préparer à imiter les autres toutes les fois que la fortune leur en fournira l'occasion. C'est en effet le devoir d'un homme bon d'apprendre aux autres ce bien que tu n'as pu accomplir à cause de la malignité des temps et de la fortune, afin que beaucoup l'ayant compris, l'un d'entre eux, plus aimé par le ciel, puisse l'accomplir. Donc on voit que dans ce texte, Machiavel précise ses intentions. Il part d'une réflexion sur la façon de louer le passé en mettant en évidence la nécessité de partir de la conjoncture présente pour savoir si louange ou blâme sont ou non légitime. C'est en fonction de la situation historique que l'on peut louer ou critiquer à bon droit. Et c'est l'incapacité des Italiens à faire face aux armées étrangères qui amène Machiavel à revendiquer l'exemple des anciens comme une arme pour affronter les questions du présent. On peut noter que cette réflexion sur le rapport au passé en fait naître une autre sur la fonction éthique de l'écriture, ce qu'il nomme, à la fin du passage que je viens de lire, le devoir d'un homme bon. Ce devoir, c'est écrire pour que les connaissances qui naissent de l'expérience et de l'expérience des anciens, lues dans leurs ouvrages, puissent servir à comprendre et à agir. Machiavel entend répondre aux questions qui naissent de la conjoncture politico-militaire. Conjoncture qui oblige à penser l'état de guerre, qui oblige à penser l'état d'urgence, ce qu'il résume par cette formule, la qualità dei tempi, la qualité des temps. Il mène une réflexion politique fondée sur ce métier qu'il a appris sur le tas, dans la boutique. Son imitation et sa lecture des anciens part de ce socle et on comprend dès lors pourquoi les textes de l'Antiquité dont il se sert au premier chef en tout cas, soient les textes des historiens. Tite-Live, puisque Tite-Live est le point de départ de ses analyses dans les discours sur la première décade de Tite-Live, mais bien d'autres reconnaissables au fil de ses citations explicites ou non, Plutarque, Xénophon, Salluste, Hérodien, Polybe. Une anecdote éclaircira ce rapport nécessaire avec la continuelle lecture des anciens. Cette anecdote se passe à l'automne 1502. Elle montre bien cette dialectique de l'expérience des choses modernes et de la continuelle lecture des anciens. Il est à ce moment-là, automne 1502, il est l'envoyé de Florence en mission diplomatique auprès de Cesare Borgia, hein, César Borgia. Évidemment, tous les gens qui ont lu Le Prince savent que c'est le personnage central du chapitre 7 du Prince. Hein, et Cesare Borgia vient de se découper un état nouveau en Romagne et il aimerait bien l'élargir aux dépens du territoire florentin pour essayer de comprendre la stratégie de Cesare Borgia, ses intentions cachées, que Machiavel lui a été enlevé. Machiavel est donc là auprès de ce prince nouveau, de ce modèle futur du prince nouveau, et demande à un de ses collègues et amis de la chancellerie, qui s'appelle Biagio Bonaccorsi, de lui envoyer au plus vite un exemplaire des Vies parallèles de Plutarque. Et on n'a pas la lettre de Machiavel, mais on a la lettre de réponse de Biagio Bonaccorsi, qui dit à Machiavel qu'il est vraiment casse-pied et qui précise qu'on va essayer de le trouver à Venise parce qu'il n'y en a pas de disponible à Florence. Hein. Et je crois que cette anecdote illustre de façon assez nette ce besoin de la lecture des anciens dès lors que cette lecture est passée au crible du moment présent, dès lors qu'elle sert à élucider les questions du moment présent, à mieux comprendre les situations et les façons d'agir des hommes. Alors, cela évidemment ne signifie pas que la culture de Machiavel soit réduite aux historiens, hein, et qu'en particulier, ils ne connaissent pas les traditions philosophiques du passé. C'est-à-dire qu'ils connaissent très bien... Il connaît très bien aussi les philosophes. Hein. Et là aussi, un indice peut être mis en évidence dans une lettre, encore une lettre de ce débat important qu'il a avec Francesco Ettore, et qui est une lettre un tout petit peu antérieure à celle qui a servi de point de départ à notre cours d'aujourd'hui. C'est une lettre du 26 août 1513. Et il y a là, c'est le moment d'un débat, un débat épistolaire entre Francesco Vettori et Machiavel. Et ce débat porte sur le danger que représentent pour l'Italie les Suisses qui, appelés par le pape, viennent de chasser les Français de Lombardie et qui sont en train d'établir une domination de fait sur le duché de Milan. Donc Vettori, dans une lettre à Machiavel du 20 août, défend la thèse selon laquelle, au fond, ce danger de domination sur le duché de Milan des Suisses est faible. Hein, et il pense que les Suisses se contenteront de donner un coup de râteau, c'est-à-dire de una rastrellata, il écrit, de rafler tout ce qu'ils pourront, hein, et puis qu'ensuite ils rentreront chez eux. Et pour appuyer cette thèse du danger minime au fond des Suisses, Vettori invoque l'autorité d'Aristote. Il écrit en substance que quiconque veut voir la faiblesse potentiel des Suisses n'a qu'à lire Aristote lorsque Aristote parle des républiques divisées. Et alors Machiavel, en répondant donc le 26 août à cette lettre du 20 août, lui répond J'ignore ce que dit Aristote à propos des républiques divisées, mais je sais bien, et il continue sa lettre en appuyant, lui, sa démonstration sur le risque effectif que font courir les Suisses, sur des éléments qui naissent des connaissances de la pratique d'hommes de terrain, de diplomates, d'hommes politiques, et partiellement également sur sa lecture des historiens grecs et romains. Comment comprendre une telle réponse? Que signifie-t-elle? Eh bien, elle signifie d'abord tout simplement que si l'un des deux compères qui sont en train de débattre par lettre interposée, si l'un des deux ne sait pas ce qu'a écrit Aristote, c'est Vettori, hein, et non Machiavel. Car il est bien vrai qu'aucun passage du philosophe ne traite cette question des républiques divisées. Machiavel répond donc ironiquement à son ami, et, tu me parles d'Aristote, mais qu'est-ce que tu me racontes sur Aristote? Et cette ironie se fonde sur une connaissance plus réelle des textes du philosophe. Mais ce n'en est pas moins sur sa pratique, sur son expérience, et non sur une exégèse philosophique, qu'il fonde l'essentiel de sa réponse. De sa réponse, qui par ailleurs se révélera être la bonne, puisque les Suisses vont pendant 2 ans diriger de fait le duché de Milan, et qu'ils auraient sans doute maintenu cette domination s'ils n'avaient été vaincus par le roi de France, François Ier, à Marignan. Donc, il faut bien avoir en tête que la façon dont Machiavel imite ou cite les anciens est toujours à interroger en fonction des questions qu'il entend résoudre. Pour donner un dernier exemple, tiré du chapitre 18 du Prince, le chapitre où Machiavel s'interroge pour savoir de quelle façon un prince doit garder sa foi, de quelle façon un prince doit tenir parole, fait référence implicitement, mais sans qu'il y ait le moindre doute là-dessus, à un traité de Cicéron qui est le traité sur les devoirs, hein, le De Officiis. Machiavel, dans ce chapitre, commence par expliquer à ses lecteurs qu'il y a 2 manières de combattre. L'une par les lois, l'autre par la force. La première est le propre de l'homme, la seconde, des bêtes. L'expression italienne « de genre »,« due generazioni », »,« de manière », »,« de genre », calque une expression du De Officiis de Cicéron. Duo genera decertandi. Il y a en effet, écrit Cicéron, c'est De Officiis 1.34, 2 manières de combattre, l'une par la discussion, l'autre par la force. Et la première est propre à l'homme, l'autre aux bêtes. Il faut recourir à cette dernière s'il n'est pas possible d'utiliser la première. Voilà ce que dit Cicéron. Donc incontestablement, la formulation est empruntée à Cicéron, mais les conclusions tirées sont loin d'être les mêmes. Pour Cicéron, la force propre aux bêtes n'est à utiliser que dans le cas où la nécessité y contraint. Pour Machiavel, l'expérience montre qu'il faut être prêt à user en permanence de l'une et de l'autre. Je le cite. Mais comme souvent la première ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. De ce fait, il est nécessaire à un prince de bien savoir user de la bête et de l'homme. La métaphore du centaure présente dans ce chapitre indique précisément qu'il faut être à la fois homme et bête et que c'est la situation, la nécessité, la qualité des temps, la qualité des tempi, qui amène à choisir l'une ou l'autre manière de combattre. Et lorsque la nécessité amène à combattre à la manière des bêtes, c'est-à-dire par la force, il faut être capable d'imiter à la fois le renard et le lion. Hein, autre métaphore célèbre du prince, toujours dans le chapitre 18. Et cette fois aussi, il y a une citation du De Officiis, cette fois-ci en 1,41. Et là aussi, il y a un jeu avec les positions cicéroniennes. Je cite Cicéron. Il y a en effet deux façons de faire une injustice, c'est-à-dire soit par la force, soit par la ruse. La ruse est propre au renard, la force au lion. L'une et l'autre sont tout à fait contraires à l'homme, mais la ruse est digne de plus de haine encore. On le voit, les conclusions, là aussi, hein, même si la citation est indéniable, les conclusions sont fort loin d'être identiques, puisque Machiavel pense et écrit que le prince doit être en permanence l'un et l'autre, qu'il doit être à la fois renard et lion. Il faut donc, écrit-il, être renard pour connaître les raies et lion pour effrayer les loups. Ceux qui se contentent de faire le lion ne s'y entendent pas. En effet, pour lui, et c'est ce qu'il écrit en conclusion du chapitre, le prince doit faire en sorte de vaincre et de maintenir son état. Les moyens seront toujours jugés honorables et toujours loués par tout un chacun. Il y a bien donc un rapport d'amour entre Machiavel et les anciens, ces anciens qui répondent par humanité à ces questions visant à comprendre les raisons de leurs actes. Mais cet amour évident, cette proximité mise en scène, ne doit pas faire oublier que sa lecture s'ancre dans le présent, dans l'analyse d'une conjoncture précise. Machiavel pense que l'histoire des temps passés peut être la maîtresse de nos actions, parce que le monde a été habité de la même façon par des hommes qui ont toujours eu les mêmes passions. L'expérience politique et militaire des anciens, qui est rapportée par l'histoire, doit être interrogée en fonction des questions que pose l'histoire du temps présent. En l'occurrence, les questions qui naissent de la guerre et les questions que pose la survie difficile de la République florentine. La prégnance de ces questions, mise en évidence par son expérience politique, explique pourquoi son écriture des choses modernes s'appuie sur une lecture passionnée des anciens.